Bonjour, c'est Axel de Tarlé. Vous écoutez C'est dans l'air l'intégrale, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
Bonsoir à toutes et à tous. L'enseigne d'ameublement Habitat, qui a connu son heure de gloire dans les années 90, a été placée cet après-midi en liquidation judiciaire. Une faillite qui fait suite à celle de nombreuses enseignes stars des années 80 et 90, comme Camailleux, Naf-Naf, Pimki, André ou encore Koukaï. Mais cette fin d'année est surtout marquée par le démantèlement de l'empire Casino, ex-gloire de Saint-Étienne, qui donna son nom au stade Geoffroy-Guichard et dont l'origine remonte au XIXe siècle. Question, pourquoi toutes ces enseignes sont-elles en difficulté? Avons-nous changé notre façon de consommer? Dans l'alimentaire, l'envolée des prix depuis 2 ans marque-t-elle une rupture profonde de nos habitudes d'achat? C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air, intitulée ce soir « Habitat, Casino, Naf-Naf, l'hécatombe des enseignes ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Fanny Guinochet. Vous êtes spécialiste des questions économiques et sociales, éditorialiste à France Info et à La Tribune. Thomas Porcher, économiste et professeur à la Paris School of Business, membre des économistes atterrés, auteur de « Mon dictionnaire d'économie », c'est aux éditions Fayard. Jean-Laurent Casselli, vous êtes essayiste, fondateur de Maison Casselli. C'est un bureau de tendance spécialisé dans les modes de vie et les questions de territoire. Et puis je cite votre livre, coécrit avec Jérôme Fourquet, « La France sous nos yeux », c'est aux éditions du Seuil. Enfin, Olivia de Troya, vous êtes journaliste économique chargée de la grande consommation au Figaro. À lire votre article sur le site du Figaro, « Face à l'inflation, les Français revoient leur menu des fêtes ». Merci de participer à cette émission en direct. Fanny Guinochet, 82% des Français disent réduire leurs dépenses. Est-ce que du coup, nos habitudes d'achat ont changé et certaines enseignes en font les frais?
Effectivement, avec l'inflation, que ce soit sur l'alimentaire ou un certain nombre d'autres produits, les Français se sont adaptés. Ils ont adapté leur panier de courses. Alors en termes de volume, déjà, ils achètent moins. Et puis, ils font des arbitrages en fonction des achats plaisir qui passent un peu à la trappe, des achats en fonction des prix, évidemment. Le prix, c'est vraiment ce qui détermine l'achat. Alors c'est vrai que derrière, on aura l'occasion d'en parler ce soir, mais il y a d'autres préoccupations, on pourrait se dire, écologiques, etc.
Oui, le Nutri-Score, le bio, tout ça, etc. Non ?
Les Français les ont en tête, ils aimeraient bien, être plus vertueux dans leurs achats, mais au final, le juge de paix, ça reste le prix. Quand vous avez des budgets qui sont contraints, eh bien, c'est ce qui détermine l'acte d'achat. Et ensuite, eh bien, vous avez un environnement industriel, parce que toutes les marques que vous citez, ce sont des industries qui sont aussi en train d'évoluer, alors sous différentes raisons. Mais c'est vrai que là, on assiste, on a l'impression de changer d'époque, quoi. Toutes les marques que vous avez citées, et il y en a d'autres, du pareil au même, enfin, on a plein de marques comme ça dans l'ameublement, dans le vêtement, dans la chaussure, qui sont en train de littéralement mettre la clé sous la porte, faire faillite. On le voit dans les centres commerciaux, on le voit dans les commerces des villes, on le voit même au cœur de Paris. Vous allez à Montparnasse, au-dessous de la tour, vous avez plus un commerce ou presque. Et c'est vrai que ça s'explique par des tendances de consommation qui ont changé. Et pour résumer, on pourrait dire que toutes ces enseignes, elles s'adressaient à ce que l'on appelle du milieu de gamme, du moyen de gamme. On n'était ni dans le pas cher, ni dans le très luxe. Eh bien, les deux extrémités de consommation s'en sortent et le moyen de gamme, eh bien, finalement, ne résiste pas.
Justement, Thomas Porcher, qu'est-ce qu'elles incarnaient, toutes ces marques chic, mais en même temps populaire. Donc je vais les citer. Elles ont disparu. Les Naf-Naf, les Koukaï, les Camailleux, les André, les San Marina, les du pareil au même.
Bon, je pense que c'était effectivement ce qu'a dit Fanny Guinochet. C'était les marques de la classe moyenne française.
Et donc ça dit quoi de la classe moyenne alors? Ces marques ont disparu.
Bon, les inégalités ont augmenté, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi un certain nombre de transformations et elles n'ont pas su s'adapter à ces transformations. La vente en ligne, elles ont souvent loupé le coche. Le développement de la seconde main, bon, c'est venu les concurrencer. Et puis après, il y a la conjoncture quand même qu'on connaît depuis 2008, où on a eu crise sur crise. On a eu la crise 2008, on a eu la crise de la zone euro, on a eu à un moment des taux de croissance à 0%. On a eu le Covid, l'inflation.
Les gilets
tout
jaunes.
Ça, les gilets jaunes. Donc tout ça fait que ça rend une conjoncture qui est un peu difficile. Et puis après, on ne peut pas passer aussi à côté de la responsabilité des dirigeants qui ont joué plein pot la financiarisation, la création de holdings, l'endettement massif.
Vous pensez à Casino, là, en particulier?
Casino, mais pas à toutes, même pas que, dans le textile aussi. Et en fait, ils se sont concentraient beaucoup finalement sur des montages financiers qui leur permettaient de gagner énormément d'argent plutôt que sur l'économie réelle et les transformations de l'économie réelle. Quand vous rachetez des entreprises comme ça, différentes les unes après les autres, que vous faites grossir, qu'à la fin vous vous retrouvez à la tête de parfois 150, certaines holdings, 150 ouais. entreprises, vous ne pouvez pas connaître 150 secteurs qui sont aussi différents les uns des autres. Donc il faut revenir aussi un peu à l'économie réelle. Et on avait eu plein d'exemples pendant
Habitat
la crise.
Habitat a changé 5 fois de propriétaire depuis 1990. Sûr, mais... Donc en permanence en vente, ça c'est pas bon d'être en permanence sur le marché.
Eh bien, ça veut dire que ça va très mal. Mais quand on regarde ce qui s'était passé avec General Motors en 2008, qui était quand même l'entreprise phare des États-Unis, parce qu'à un moment on disait que quand General Motors va, tout va, hein, qu'aux États-Unis l'économie fonctionne bien, et qu'elle a fini par être rachetée par le contribuable. Parce que cette entreprise, pendant des décennies, a monté des structures financières, s'est concentrée sur le fait de faire monter la valeur actionnariale plutôt que sur le fait de faire des voitures qui répondent à la concurrence, notamment la concurrence des Japonais. On avait déjà ces exemples-là. Et donc, il y a quand même une responsabilité. Il y a des changements structurels, mais il y a une responsabilité également des dirigeants qui se sont concentrés sur la sphère financière plutôt que la sphère réelle.
Olivia Letroya.
Oui, et puis il ne faut pas oublier l'impact du Covid aussi, qui a beaucoup fragilisé la structure financière de ces sociétés-là, qui ont fermé leurs rideaux pendant des mois et des mois, et qui, au moment où l'économie a repris, ont eu du mal à se réinventer. Fanny disait très bien, c'est des enseignes de milieu de gamme qui ont du mal à trouver une promesse nouvelle et différenciante par rapport aux nouveaux acteurs qu'on a vus arriver. Par exemple, si on prend Uniqlo, qui va très bien, qui a publié les meilleurs résultats.
C'est une chaîne historique. Japonaise. Hein,
c'est une chaîne japonaise, voilà, qui fait de la fast fashion. Qui est en France depuis
fast fashion
années.
C'est il y a de réassorts fréquents,
voilà, des collections
c'est pas chic et pas cher et ça change
chic
tout
et
le
pas
temps
cher, et ça c'est une vraie promesse de marque. Quand on va chez Uniqlo, on sait qu'on va avoir déjà des magasins très propres, très digitalisés aussi, hein. Ils ont su prendre très 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 vite le tournant du digital. Par exemple, si vous allez à Opéra, il n'y a plus une caissière aujourd'hui, vous passez sur les caisses automatiques. Alors on pourrait le déplorer, mais en tout cas eux ils ont une promesse et une digitalisation de l'enseigne qui fait qu'on sait ce qu'on va trouver quand on y va. Primark, c'est pareil. L'anglais Primark, on sait qu'on va pouvoir acheter ses enfants, habiller ses enfants pas cher. Acheter ses enfants, non. Les habiller pas
pour
cher.
Pas cher.
Pour pas cher.
Donc, voilà. Et donc ces grandes chaînes internationales, nous, on n'a pas su, les Kukai et les Pimki, ils n'ont pas su s'adapter.
Parce qu'ils n'avaient pas la structure financière pour s'adapter à ces nouveaux modes de consommation. Et on a eu des enseignes à deux vitesses qui avec celles, les grands groupes internationaux qui ont su résister. Ouais. Et puis celles qui ont eu par effet domino sont...
Et puis vous parliez du Covid. Pendant le Covid, je parle sous votre contrôle, mais il y a eu des emprunts qui ont été faits, les fameux prêts garantis par l'État, qu'il a fallu rembourser.
Et qu'il a fallu rembourser.
Et c'est là que,
et au moment,
c'est
il
là
a fallu
que les faillites
rembourser.
Arrivent. Quoi.
Ouais. C'est pour ça. Et juste pour préciser, c'est vrai qu'il y a eu aussi le phénomène du télétravail. Et un certain nombre de personnes sont restées après le Covid en télétravail plusieurs jours. Et donc
à quoi bon racheter une veste si je suis en pyjama toute la journée?
Non, il y a eu ça, mais il y a eu moins de fréquentation dans certaines zones. Vous regardez du côté de la Défense, et bien quand vous avez les bureaux qui sont remplis la moitié du temps, le petit achat qui était fait entre midi et deux, vous traînez un peu dans la galerie, vous faites un achat, là, il n'existe plus. Donc, il y a un certain nombre de marques aussi qui ont pâti de ça.
Jean-Laurent Casselli, est-ce que pour autant, il faut parler de déconsommation? Je dis ça parce que même les patrons de la grande distribution disaient qu'à Noël, les magasins étaient pleins. On est toujours capable de se faire plaisir. Et le plaisir, ça passe par acheter des bonnes choses pour Noël en famille.
Oui, alors c'est vrai qu'il y a un peu deux sujets. Il y a la question de la mode vestimentaire, du prêt-à-porter, comme d'autres intervenants l'ont bien dit, c'est une question d'évolution des modèles. Et puis dans la grande distribution alimentaire, là il y a plutôt, je dirais, c'est un peu le contre-exemple qui confirme la règle. La grande distribution alimentaire, c'est la résistance du modèle généraliste, du tout sous le même toit, par rapport au commerce de précision. Pourquoi ? Parce que ce qu'on a vu depuis déjà plusieurs années, en fait, avec le retour de l'inflation, c'est la question de la centralité de l'étiquette. Aujourd'hui, tous les Français regardent les étiquettes. Vous savez, il y a beaucoup de dictons dans le commerce. Il y en a un qui est les prix bas, les pauvres en ont besoin et les riches adorent ça. Et c'est vrai qu'il y a, j'allais dire presque un snobisme qui consiste aujourd'hui, pour des catégories moyennes ou supérieures, à aller fréquenter presque sans canailler dans des enseignes de discounters, de hard discount, qu'elles ne connaissaient pas ou peu. Et on le voit, Leclerc, parce qu'on va citer des marques aujourd'hui évidemment, Leclerc a ouvert le bal en avril avec une publicité qui quelque part mettait en scène ce basculement, cette descente en gamme, quand il mettait en scène un couple de seniors, plutôt, on imagine plutôt aisés, et le monsieur allait faire ses courses, allait faire les courses, et c'était exceptionnel apparemment, et la dame lui dit « Oh là là, t'es allé faire les courses, mais tu sais que normalement chez eux on n'y va pas, et on voit des sacs Leclerc », et puis le monsieur lui répond « Ben maintenant on y va ». Voilà, sous-entendu, ben, nous aussi on fait partie maintenant de cette grande famille des Français qui regardent les étiquettes.
C'est ce que vous disiez, la centralité des prix, le bio, tout ça, ça passe après. Alors, les Français ont donc considérablement changé leurs habitudes de consommation. Moins de viande, moins de poisson, plus de marques distributeurs. Et le responsable est bien connu, c'est l'inflation qui grignote depuis 2 ans le portefeuille des ménages. Sujet de Nicolas Bidart, Maxime Liogier et Adrien Guillotot.
Depuis 25 ans pour faire ses courses, Gabriel Demidoff ne jure que par son marché de quartier. Car il n'y a qu'ici qu'elle trouve des prix aussi attractifs.
Sur certains articles, il y a au moins 4 euros d'écart par rapport à un fromager dans une boutique classique. Donc oui, je m'y retrouve.
Mais même au marché, l'inflation se fait ressentir. Malgré ses revenus plutôt aisés, cette gérante de société a fini par se restreindre, notamment sur les produits les plus onéreux.
On fait attention, on a tous nos budgets, quels qu'ils soient. Donc on fait attention à ce qu'on consomme. Le saumon fumé, on en prendra peut-être une fois par mois dans la saison, alors qu'avant, on en aurait pris 2 fois par mois. Ou alors pour une occasion, parce qu'il y a les fêtes, parce qu'on a de la famille, des amis, on a envie de se faire plaisir.
Se faire plaisir est même parfois devenu impossible pour le budget de certains, comme Corinne Dejardin. Cette vendeuse de fruits et légumes ressent la perte de pouvoir d'achat d'année en année.
Heureusement que mes enfants sont plus élevés et sont partis parce que je ne sais pas ce que je leur donnerai à manger dans leurs assiettes à ce jour. Je pense qu'ils n'auraient pas la même nourriture qu'ils ont eue quand ils étaient petits, où on faisait attention mais on avait de quoi manger, où on était quand même pas malheureux. Maintenant on gagne de l'argent mais on n'a plus de quoi dépenser parce qu'une fois qu'on a payé tout ce qu'on a payé, on n'a plus de thunes. Donc il n'y a plus de superflu, mais même le panier moyen, on ne peut même plus lâcher, on est obligé de faire attention surtout. Et c'est dramatique.
Selon une étude, 69% des Français auraient renoncé à acheter certains produits, notamment du poisson frais, de la viande, de l'alcool ou encore des plats préparés. Des changements d'habitude de consommation dont les marques distributeurs profitent. De mars à août 2023, leurs ventes ont progressé de 19,7%. Si elles restent moins chères en moyenne que les marques nationales, les marques distributeurs augmentent tout de même leur prix de vente. Et plus que de raison selon ce spécialiste.
Le cours du blé dur qui permet de fabriquer les pâtes a chuté de plus de 50%. Et donc ces produits-là doivent baisser de 30 à 40%. Or là, on est à 3 ou 4% depuis le début de l'année. Le problème n'est pas uniquement la marque. La marque n'a pas augmenté autant que la marque de distributeur et le premier prix.
Mais alors, à qui la faute du surcoût des produits alimentaires ? Grande distribution et industrielle se renvoient la responsabilité. Cette directrice de supermarché qui a bloqué le prix de 500 produits l'an dernier explique aussi devoir faire tourner son magasin.
On ne peut pas non plus rogner éternellement sur nos marges parce qu'on est comme tout le monde. On a aussi vécu l'augmentation des coûts de l'énergie, ce qui est vraiment un très très gros poste dans nos entreprises. Et puis les marges, de toute façon, on est tous tenus par l'obligation d'être concurrent, d'être concurrentiel. Donc on ne peut pas se permettre d'être plus chers les uns que les autres. Donc on est tous un peu garants. Finalement, que cette augmentation des prix elle soit raisonnable, puisqu'on n'a pas d'intérêt à envoyer nos clients dans des magasins qui auront peut-être des marges un petit peu inférieures.
Et dans cette concurrence féroce, il y en a un qui s'est fait devancer. Le groupe Casino, endetté massivement, se sépare de plus de 300 supermarchés et hypermarchés, faisant craindre aux salariés une casse sociale.
C'est beaucoup d'émotions, quoi. C'est beaucoup de... Voilà, quoi. Moi, j'ai commencé à Casino et voilà, je pensais finir à Casino. Bon, on verra.
Je suis rentré il y a 20 ans. On était, c'était l'insécurité d'emploi, c'était un grand groupe, c'était une famille.
Auchan et Intermarché reprendront les points de vente. De quoi leur permettre de mieux négocier les tarifs avec les industriels et donc attirer plus de clients en cette période d'inflation.
Alors Olivia Détroya, vous l'avez constaté, vous, dans votre enquête, hein, pour, je la recite, hein, les Français revoient leur menu de fête. Qu'est-ce qui change précisément, poste par poste, dans ce qu'on met dans le caddie ?
Alors il y a beaucoup de choses qui changent, mais on a un phénomène global de descente en gamme. Donc on parle de déconsommation et de descente en gamme, c'est-à-dire qu'on va aller choisir des produits qui peuvent nous faire plaisir, mais qui sont un peu moins chers. Alors, on va prendre, par exemple, les produits de fête, le champagne. On a vu que les ventes dévissaient.
Moins 17%.
Moins 17%, voilà. Et on va remplacer par du mousseux, du crémant. Surtout qu'on peut avoir des bouteilles qui, pour 8-10 euros, sont avoir des très très, bons, des très, très bonnes bouteilles qui font tout autant plaisir. Le saumon fumé aussi a chuté très fort.
La poissonnerie, moins 11,6, écrivez-vous, voilà, dans votre article.
Exactement. Et on va remplacer soit par de la truite, par exemple, qui est moins chère, ou par des protéines moins chères, les œufs.
Alors les œufs, plus de 2, j'ai repris tous les chiffres
voilà,
de l'article.
Exactement, les œufs. Donc on a vu un boom des œufs.
On se fait les omelettes maintenant, moins de côtes de bœuf, plus d'omelettes.
Exactement, c'est des protéines, c'est une source de protéines, donc ça permet d'assurer une alimentation toujours équilibrée, tout en voilà, faisant des arbitrages et en serrant un petit peu son budget. Donc ça c'est un des principaux changements. On a, votre reportage le montrait très bien, l'explosion des MDD, des marques de distributeurs. Aujourd'hui c'est plus de 35% de l'offre en magasin. On a des enseignes comme Carrefour qui veulent en mettre 40 ou 50%. Carrefour qui était vraiment où on trouvait toutes les marques, en fait, qui était vraiment le temple des marques et qui nous dit on va changer de modèle, on va mettre des marques de distributeurs qui maintenant en qualité sont l'équivalent de certaines marques et puis aussi beaucoup plus de promotion. C'est un phénomène qu'on a vu s'amplifier. Alors beaucoup en Europe, un peu moins en France, mais qu'on voit quand même augmenter la promotion, la recherche de la promotion du prix, ce que vous disiez très bien, qui est devenu le premier critère d'achat aujourd'hui. Ça vraiment fait partie des grands changements de cette année.
Mais Fanny Guinochet, est-ce que les grandes marques ne s'inquiètent pas de ces changements d'habitude? Parce que si on achète des pâtes distributeurs, on va acheter moins de pâtes Barilla. Je cite Michel-Édouard Leclerc, les grandes marques vont payer très cher leur arrogance de prix.
Alors, Michel-Édouard Leclerc, je ne suis pas étonnée qu'il dise ça, parce que ça fait longtemps qu'il a les grandes marques dans le viseur.
Il les cite tout le temps, les Unilever, le Coca-Cola.
Oui, sauf qu'il est aussi obligé de faire avec, parce qu'il y a quand même un certain nombre de marques auxquelles les Français sont attachés. Coca-Cola, Nutella, ce sont des marques un peu... c'est des têtes de gondole, ça attire le client. Donc d'ailleurs, on fait des promotions dessus, et puis parfois, il y a tellement d'engouement que ça devient compliqué. Mais c'est vrai que quand vous discutez avec les patrons de ces grandes enseignes, ils sont tous très inquiets parce qu'ils vous expliquent tous qu'on est en train de basculer, on change de modèle, qu'il y a une forme de baisse de consommation en volume, hein, ne serait-ce que ça. C'est compliqué de voir que bah, là où avant vous aviez des caddies pleins, ils sont un peu moins pleins, que plus vous avancez dans le mois et plus la taille des caddies aussi se réduit. Hein, ça, c'est vraiment un arbitrage qui est fait. Quand le salaire tombe, il y a plus de consommation et ils essayent de s'adapter. C'est vrai qu'en termes de marques distributeurs, ça c'est un véritable changement parce que vous citiez Carrefour, mais toutes les marques s'y sont mises et il y a des références qui sortent pour
toutes
le coup.
Toutes les enseignes s'y sont mises.
Et vous voyez que chez les marques, vous avez moins de références qu'avant. Donc là où vous aviez, alors ne me demandez pas précisément parce que je ne suis pas une spécialiste, mais je ne sais pas, 10 propositions de pâtes pour Barilla.
Et puis souvent, elles sont en bas maintenant.
Et bien là, vous allez en avoir plus que 5 parce que à côté, vous allez avoir plus de marques de MDD, donc de marques distributeurs. Donc ça, c'est un vrai, vrai changement et il est probable que ça dure parce que finalement, les Français s'y habituent. C'est une habitude de consommation qui est prise.
Mmh. Thomas Porcher, pourquoi est-ce qu'on a l'impression que c'est l'alimentaire qui a le plus trinqué dans ces changements d'habitude de consommation? D'ailleurs, quand on interroge les Français, on leur demande la perte de pouvoir d'achat, elle vient d'où? Eh bien, en 1, ils mettent l'alimentaire, 85%, devant l'énergie et le carburant.
Parce que c'est là où les prix ont le plus augmenté. L'inflation cumulée 2020-2023, on est à plus de 20% sur l'alimentaire. Sur l'inflation, de manière générale, on est à 13,6% en cumulé hein, sur 2020-2023. Les salaires n'ont pas suivi. Il n'y a que le SMIC qui a suivi, parce qu'il est indexé directement. Les retraites, le salaire moyen a perdu en pouvoir d'achat entre 2020 et 2023.
Et puis surtout, les salaires n'ont pas augmenté de 20%.
Non,
si vous me dites que l'alimentaire
a
augmenté.
Donc il y a une perte de pouvoir d'achat comme on n'avait pas vu depuis l'après-guerre. Donc là, les gens ont dû faire ont dû s'adapter. Et quand vous avez, en fait, dans un budget, des dépenses contraintes à hauteur de 40%, le logement, l'énergie qui a augmenté, les carburants, vous êtes obligé de prendre votre voiture, le chauffage, etc.
Là, on est obligé.
Bah, où est-ce que vous faites les arbitrages? Sur l'alimentation, sur l'habillement, sur les loisirs. Pour les plus pauvres, ce budget contraint peut atteindre parfois 80% quand vous êtes dans les salaires les plus bas. Donc là, vous avez des marges de manœuvre extrêmement faibles. Donc vous faites des arbitrages très forts sur l'alimentation et sur le loisir. Vous en avez très peu, vous effacez complètement le loisir. Donc les arbitrages ont dû être faits sur les autres secteurs. Et l'alimentation, c'est ce qu'il y a eu. On se dirige vers des produits moins chers, on consomme moins en volume, et ainsi de suite.
Jean-Laurent Cassini, comment les Français vivent-ils? Donc, Olivia Détroya disait qu'on descendait en gamme, Fanny Guinochet qu'on achetait moins. Donc, dans son caddie, on a moins de choses et en plus des choses de moins bonne qualité. Je cite Sophie Binet, « Le travail permet de moins en moins de vivre ». Et c'est vrai qu'il y a un Français sur deux qui dit ne pas pouvoir vivre décemment. Est-ce que cette descente en gamme, elle vous renvoie de vous une image paupérisée de votre situation?
Vous savez, on dit toujours que dans la consommation, la baisse du niveau de vie, elle est absolue, mais elle est aussi relative. Et on vit dans une société de consommation qui n'est pas celle qu'on avait il y a 20 ans. On parle beaucoup du saumon, là, depuis, parce que c'est les fêtes de Noël, mais je me rappelle d'un temps où il y avait du saumon qu'à l'approche de Noël. Aujourd'hui, il y a du saumon tout le temps, dans n'importe quel supermarché. Donc, par rapport à cette frustration permanente, le consommateur d'aujourd'hui, c'est un consommateur qui voit son niveau de vie baisser dans une société qui, paradoxalement, prône l'opulence. Et qui prône aussi la santé, le bien-être. On a vu aussi un grand recul du bio, des marques et des magasins bio, parce que tout simplement c'est trop cher. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'à budget égal, il y a plusieurs stratégies chez les Français. Si je prends l'exemple assez iconique de la viande, vous avez des gens qui sont dans le déni, ils ne veulent pas entendre, ils ne veulent pas s'adapter à cette réduction, donc ils continuent à en consommer autant et probablement de moins bonne qualité, avec notamment les fameuses promotions. Vous avez d'autres gens qui vont avoir un comportement un peu plus élitiste, qui vont dire bon, ben, c'est le fameux moins mais mieux. Je mange moins souvent de la viande, mais par contre, c'est des plus belles pièces et donc je maintiens mon budget. Et puis, vous avez une petite partie minoritaire, mais qui se fait entendre, qui, pour des raisons idéologiques, va sortir du système et va arrêter de consommer une alimentation carnée, va devenir végétarienne. Donc, il y a quand même aussi des marges de manœuvre, je dirais, à budget équivalent.
Même si Fanny Guinochet, on parlait de l'énergie, il y a encore des coûts qui vont augmenter, là, l'électricité. Est-ce que le pouvoir d'achat va... parce qu'on nous parle d'un recul de l'inflation, est-ce que ça veut dire que ça va aller mieux du côté de notre pouvoir d'achat?
Alors, non, parce qu'en fait, on va gagner un peu plus de pouvoir d'achat. En tout cas, c'est ce que promet la Banque de France. Mais parce que l'inflation va un petit peu reculer, ou en tout cas, augmenter moins vite. Pas parce que les salaires vont augmenter de façon exponentielle. Quand on regarde les augmentations de salaire, Thomas Porcher le rappelait, effectivement, les gens qui sont au SMIC ont bénéficié d'augmentations de salaire sur les deux dernières années, c'est un peu plus de 10%, parce que c'est mécanique, c'est dans la loi, c'est inscrit, donc à chaque fois qu'il y a une augmentation, il y en aura une le 1er janvier prochain de 1,13%, ce qui va faire un SMIC, grosso modo, qui va arriver à 1400, pas tout à fait 1400 euros net. Mais outre le SMIC, les autres, ben, il a fallu aller négocier. Alors, les entreprises, on a entendu toute l'année Bruno Le Maire, ministre de l'économie, dire il faut augmenter, qui disait au patron, augmentez vos salariés, et vous aviez le patron du MEDEF, Patrick Martin, qui disait, mais si, les entreprises, elles ont joué le jeu. Bon, les entreprises, elles ont fait, en tout cas, dans une certaine mesure, elles ont fait ce qu'elles ont pu. Il y a des grosses disparités entre les grandes entreprises qui ont de la marge dans des secteurs, si vous prenez des entreprises dans le luxe qui vont très bien, bon, bah, elles ont joué, elles ont fait des primes, elles ont fait des augmentations de salaire aussi parce qu'il y a des syndicats qui peuvent négocier des augmentations globales. Mais dans les petites entreprises, bon, le chef d'entreprise qui vous explique qu'il connaît bien ses salariés, qui a envie de les aider, etc., il a fait quelques petites augmentations de salaire, mais il n'a pas pu faire comme l'inflation. Et l'année 2024, elle ne s'annonce pas, je suis désolée de le dire, c'est le moment des fêtes, mais en tout cas, tous les économistes vous disent l'économie va ralentir, on a quand même des tensions géopolitiques qui sont très fortes. Le chômage remonte un peu. Du côté de l'énergie, oui, le bouclier tarifaire, l'État qui avait protégé un certain nombre de Français, eh bien ça va s'estomper. Et l'électricité, par exemple, en février, on risque d'avoir une augmentation de 10%. Oui, vous entendez les mutuelles. Bon, bah, il y a eu beaucoup de problèmes climatiques et les mutuelles vont augmenter leurs tarifs. Le 1er janvier, vous allez avoir le timbre qui va augmenter, vous allez avoir les cigarettes qui vont augmenter, etc., etc. Donc au final, le gain de pouvoir d'achat en 2024, il ne faut pas trop compter dessus.
Et Olivia Détroya, question téléspectateur, face à cette situation, Gisèle en Meurthe-et-Moselle résume, si j'ai bien compris, les Français s'orientent vers la malbouffe. C'est bien ça, c'est-à-dire que c'est moins de produits bio et plus de produits industriels ultra transformés.
C'est un peu la spécificité de ce qu'on est en train de vivre. C'est-à-dire que le mouvement de déconsommation dont on a beaucoup parlé, même Alexandre Bompard qui parlait d'un tsunami de déconsommation, déjà c'était un peu fort et il n'est pas tout à fait nouveau. C'est-à-dire que ça fait quelques années qu'on consomme un peu moins en volume, mais on consommait moins mais mieux. Là, on consomme moins,
et moins bien.
Et donc, du coup, effectivement, on a ce sentiment de déclassement qui peut monter très fort chez les Français. Et effectivement, une alimentation un peu moins saine pour une certaine catégorie de population qui n'a pas les moyens de suivre l'inflation.
Thomas Porcher, est-ce que ça veut dire que la sobriété, elle est loin d'être écologique si c'est plus de plats industriels et puis tiens, je vais garder ma voiture diesel qui roulera bien un an de plus ?
De toute façon, il y a quand même un lien entre sobriété et faible revenu. Hein. Donc là, je pense que les gens, quand on regarde les indicateurs de la consommation, avant les journées de solde, les journées de fête, etc., on se rend bien compte que les gens consomment de moins
mais
en moins.
Mais le bio en fait les frais, les agriculteurs disent j'arrête de basculer en bio.
Notamment Casino, hein, qui possède Naturalia, le bio en fait les frais. Vous avez des arbitrages qui se font partout. Et ce qui est important pour notre économie, c'est que le premier moteur de notre économie, c'est la consommation. Ce qui n'est pas le cas d'autres pays comme l'Allemagne où c'est les exportations. Nous, c'est la consommation. Donc si la consommation est en berne, si l'activité économique est mauvaise avec la hausse des taux et qu'on est sur des taux de croissance en dessous d'1% et que l'investissement privé ne suit pas, on perd quasiment tous les moteurs de notre croissance économique. Donc il va falloir, là, je pense que ça va être les débats qui vont alimenter aussi 2024 sur une baisse des taux pour que l'économie puisse repartir, qu'il y ait de la croissance économique, qu'il y ait de l'emploi et qu'il puisse y avoir, in fine, un peu plus de consommation que prévu.
Après, ce qui est aussi paradoxal, c'est que pour les classes moyennes, c'est plus difficile, mais vous avez quand même toute une partie de la population plutôt aisée, qui continue à consommer. Alors, qui fait certes des arbitrages, mais quand vous regardez, moi, j'ai été extrêmement surprise de voir les taux de réservation de marques comme le Club Med, où c'est quand même du haut de gamme pour des vacances, donc du plaisir. Ils sont élevés. Les billets d'avion vous expliquent que...
Ça traduit quoi, ça ?
Ça traduit qu'il y a, y a une population qui a pu épargner pendant le Covid, une population plutôt aisée, qui a de l'épargne, qui vit l'inflation, mais qui garde une certaine marge de manœuvre et qui continue à se faire
donc
plaisir.
Donc c'est ces inégalités dont parlait Thomas Porcher qui fait qu'il y a du haut de gamme, et puis des gens qui serrent la ceinture et au milieu la classe moyenne, on appelle ça l'effet sablier là. Au milieu il n'y a plus personne.
Il n'y a plus personne, non quand même. Il ne faut pas non plus grossir.
La classe moyenne est en souffrance.
En France il y a quand même moins d'inégalités que dans un certain nombre d'autres pays occidentaux. Il ne faut pas noircir non plus le tableau. Mais en tout cas, il y a aussi une partie de la population, probablement, je ne suis pas très sur les chiffres, ça doit être entre 10% de la population la plus aisée, qui continue à prendre l'avion pour aller chercher du soleil pendant les vacances, qui continue à aller au sport d'hiver, qui continue à se faire plaisir. Le luxe, quand vous regardez les marques de luxe, elles fonctionnent très bien. Donc les restaurants haut de gamme fonctionnent plutôt bien. Donc il y a quand même aussi cette consommation qui est en train de... Ça a toujours existé, mais tout n'est pas tout noir, quoi.
Jean-Michel, Jean-Laurent Cassé, les questions de Jean-Michel dans la Manche. Je remercie cet épisode d'inflation. Grâce à lui, je vois que je vis très bien en déconsommant. Et c'est vrai que avant l'inflation, on disait que le modèle de l'hyperconsommation du caddie qu'on trimballe le samedi après-midi dans des rayons interminables de l'hypermarché avait moins la cote et que cette profusion des rayons, les Français commençaient à s'en détourner.
Oui, alors je pense qu'il y a un peu d'ironie dans la question, parce qu'il faut rappeler que la sobriété, ce n'est pas la privation, en fait. Et l'erreur qu'on ferait, ça serait de se dire, tiens, bonne nouvelle, le pouvoir d'achat diminue, la transition écologique va bien se passer, on va arrêter de consommer et de pourrir la planète. Ça ne va pas se passer comme ça. Plus les gens vont sentir le manque à gagner et la frustration, plus ils vont s'accrocher, en fait, au modèle d'avant. Et c'est pour ça qu'on voit ce retour à la malbouffe qu'on n'avait pas vraiment perçu pendant le Covid. Rappelez-vous, on parlait du retour du local, des petits producteurs, c'était la fin des hypermarchés. Voilà. Et deux ans après, on est un peu revenu en arrière parce que je pense qu'on a, encore une fois, on a confondu la déconsommation choisie, voulue, qui est probablement une très bonne chose, c'est concerté, et la déconsommation subie, qui est une forme de privation.
Ce qui coûte moins cher est mauvais pour la santé, mais comment faire avec un faible budget ? C'est Bruno qui pose la question.
Ben, c'est toute la difficulté et on le voit hein, du côté des ménages les plus en difficulté, eh bien ces arbitrages hélas se font aux dépens de la santé, mais vous le voyez aussi sur les autres dépenses, pas que de l'alimentaire, vous le voyez en matière de santé, en matière de la rénovation énergétique, on nous en parle beaucoup, mais la rénovation énergétique, même si il faut le reconnaître, l'État aide beaucoup les propriétaires ou les locataires de ce qu'on appelle des passoires thermiques. Ben, il n'empêche, il faut quand même avoir les moyens pour avancer les travaux, pour faire les travaux. Et vous avez, ça, ce sont des dépenses contraintes. Quand le prix de l'énergie continue d'augmenter, ou on l'a vu sur le carburant, ben, vous ne pouvez pas faire autrement et forcément, vous appauvrissez.
Donc, manger bio et rouler en voiture électrique, en fait, c'est pas à la portée de toutes les bourses.
Il y a une contrainte budgétaire à cause de l'inflation. Il y a une contrainte morale avec toutes les questions liées à l'écologie. C'est-à-dire, il faut faire les bons choix, l'avion, VS, le train, avec parfois des prix défiant toute concurrence pour l'avion. Et puis, il y a aussi des contraintes après, un peu réglementaires avec la rénovation des logements. Donc, je pense, pour les Français, c'est une période qui est quand même assez difficile.
Oui, Olivier Létroyer.
Pour répondre à la question qui était posée, il y a aussi des nouveaux modes de consommation qui sont beaucoup plus assumés, qui peuvent permettre aussi de s'adapter à cette nouvelle donne. Je pense par exemple à la seconde main, dont on n'a pas parlé, mais qu'on a vu qui était vraiment le phénomène de cette année 2023, qu'on voit partout. Alors on en parle dans le jouet, dans le textile, Vinted par exemple, qui est un site lituanien, qui aujourd'hui est le premier site de vente de vêtements en ligne. Avant, il y avait ce côté un peu honteux d'aller dans des friperies ou dans des vide-greniers. Aujourd'hui, c'est complètement assumé. Pareil pour les magasins discount. Avant, s'encanailler, comme vous disiez, dans le discount, c'était pas très bien vu. Aujourd'hui, c'est des magasins qui sont un peu montés en gamme, qui sont peut-être plus chaleureux et dans lesquels on a plus de facilité à aller aussi pour gérer cette tension sur le pouvoir d'achat qu'on voit depuis 3 ans.
Voilà. Et les enseignes des années 80-90, elles, elles en souffrent aujourd'hui. Qui n'est pas un jour entré dans une boutique Pimki, Kukai ou Camailleux? Autant de marques qui aujourd'hui n'existent plus ou connaissent de graves difficultés. Des enseignes qui souvent n'ont pas su s'adapter aux changements de consommation. Et cet après-midi, on l'a dit, c'est le spécialiste de l'ameublement Habitat qui a été placé en liquidation judiciaire. Sujet de Laszlo Gélabert, Ariane Morisson et Maxime Liogier.
La décision est tombée aujourd'hui. Habitat, célèbre enseigne d'ameublement, en grande difficulté financière, a été placé en liquidation judiciaire. Ses salariés s'y attendaient, mais sont en colère contre leur principal actionnaire.
On ira jusqu'au bout, et on ne lâchera rien.
Pour Atiba Amash, leur patron aurait très mal géré l'entreprise. Elle redoute maintenant les conséquences sur les 2000 emplois concernés.
On s'inquiète pour nos collègues, ceux qui ont 45 ans, 50 ans, 55 ans, voire 60 ans. Est-ce qu'ils vont pouvoir rebondir? Est-ce qu'ils vont pouvoir retrouver un emploi? C'est ça qui nous inquiète le plus. C'est tout ce côté-là qui n'en tient pas compte, lui, hein, il n'en a rien à cirer. Mais nous, c'est ce qui nous travaille le plus.
En plus de salariés inquiets, il y a aussi des clients lésés. Comme Guillaume New. En septembre dernier, il a commandé un canapé à 1700 euros, qui n'est jamais arrivé. Lui n'a toujours pas été remboursé.
J'avais vendu mon canapé juste avant, donc je me retrouvais sans canapé. L'idée, c'est qu'on en ait un nouveau pour Noël. On s'est retrouvé à Noël sans canapé. Donc on a dû en acheter un en catastrophe sur le Bon Coin, à pas cher, pour pouvoir accueillir tout le monde. C'est quand même une somme de 1700 euros. C'était un achat important pour nous.
Au total, 9 millions d'euros d'acompte auraient été versés par des clients. Une enseigne en difficulté depuis plusieurs années et une faillite qui rappelle celle de nombreuses marques de prêt-à-porter.
Hécaton continue dans le secteur du textile.
Après Pimki, Camailleux, San Marina, Kukai, deux autres enseignes de vêtements sont en très grande difficulté.
Comme Naf, André, Jennifer, Comptoir des Cotonniers, Princesse Tam Tam, des marques bien connues des Français, obligées de fermer boutique. En cause, la crise du Covid et ses confinements successifs, mais aussi des habitudes de consommation qui changent.
C'est un marché qui correspond à un besoin qui est largement saturé. Donc en gros, lorsqu'on a besoin de faire des arbitrages, on a vite fait de sacrifier ça parce que nos armoires sont déjà pleines de vêtements. On a pris conscience de l'impact environnemental de l'industrie de l'habillement et donc certains consommateurs ont décidé de ralentir la cadence. Et puis viennent d'arriver ces fameux sites de ultra fast fashion qui sont capables d'offrir des produits extrêmement mode avec un choix considérable et des prix ridicules.
De nouvelles façons de consommer qui ont fait perdre à Laetitia Dupont son emploi.
C'est une année qui finit pas très très bien, mais...
Oui, ça c'est sûr.
ancienne vendeuse chez Pimki, elle a assisté impuissante à la baisse de fréquentation de son magasin. En septembre dernier, la boutique ferme, comme 60 autres points de vente partout en France.
C'est très dur. C'est très très dur.
Vous avez passé beaucoup de temps ?
Oui, 21 ans, donc oui. C'est là où j'ai signé mon CDI, j'ai grandi, j'ai été formée. Ouais. On réalise pas au moment où on a l'annonce. Bah, on réalise, mais c'est pas totalement. C'est au moment de faire les cartons, là, c'est. Tu te dis, tu vides ton magasin. C'est ta deuxième maison.
En mars prochain, elle commencera une formation de secrétaire médicale. Un nouveau métier et une façon de tourner définitivement la page du prêt-à-porter.
Alors Fanny Guinochet, pourquoi l'enseigne Habitat a-t-elle progressivement perdu ses clients ?
Eh bien, on l'a bien vu hein, dans votre reportage, c'est qu'il y a des changements de vraiment de consommation, y compris pour les meubles. Hein. Habitat, c'est pas une marque qui, enfin, nous ça nous parle parce qu'on a 50 ans, mais pour les jeunes, c'est pas une marque où
donc
les
ils achètent
les jeunes,
sur Internet leur
voilà,
canapé maintenant.
Et Habitat a eu du mal à faire le pari du numérique. Après, vous avez eu aussi des problèmes pendant le Covid, des problèmes de conteneurs qui étaient très chers et un certain nombre de meubles venaient d'Asie. Et des marques comme Habitat, c'est vrai que c'est l'effet cumulatif de toutes les marques là qui viennent de fermer boutique ou en tout cas qui mettent la clé sous la porte et montre vraiment qu'on a changé de paradigme, qu'on a vraiment changé de système. Et la question, c'est maintenant qui va prendre le relais, comment ça va se passer, parce que à côté de ça, on nous dit que les Français adorent le cocooning, que on se replie sur la sphère, sur sa maison. Qu'on entretient sa maison, que c'est quand même dans un monde qui est incertain, avec des actualités qui sont violentes, eh bien on rentre chez soi, on se fait son petit nid douillet, quoi. Mais un certain nombre de marques, parce que par exemple Maison du Monde, toujours dans l'ameublement, ne va pas très très bien non plus.
Et en même temps, on voit que IKEA fonctionne bien. Alors IKEA, c'est une chaîne qui est suffisamment grande pour avoir réussi à créer d'abord être présente sur le web de façon plus efficiente que Habitat.
C'est pas le même positionnement. La Billy, l'étagère la plus vendue dans le monde, je veux dire, elle coûte, je sais plus, je crois qu'elle est à 110 euros. Je veux dire,
c'est pas cher, c'est et facile à acheter, c'est ça?
Oui, alors en fait, ce qui s'est passé avec toutes ces enseignes vestimentaires qu'on a évoquées, c'est qu'elles sont nées avec la grande classe moyenne des années 80-2000, avec aussi l'urbanisme de l'étalement urbain, du tout voiture, avec les zones commerciales, parce que ces magasins Camailleux, on les trouve dans toutes les artères commerçantes des centres-villes. Mais on les trouvait aussi, on parlait au passé, on les trouvait aussi dans toutes les zones commerciales d'entrée de ville. Donc ce qui s'est passé, c'est que cette grande distribution qui a ringardisé le détaillant, le petit commerçant d'avant-guerre, quand elle est arrivée pendant les 30 Glorieuses, en disant bah, nous, on est moins cher, on est plus rapide parce qu'il y a un parking gratuit et on a plus de stock, elle s'est faite à son tour complètement ringardisée par le e-commerce qui est arrivé en disant bah, en fait, les gars, nous, on n'a pas besoin de stocker dans des magasins parce qu'on a des plateformes logistiques, on a une supply chain, une chaîne logistique qui fait qu'on livre juste à temps à J plus 1 et on est moins cher et notre stock ben, il est illimité. Donc en fait, pourquoi pour un jeune qui a 25 ans, qui d'ailleurs n'a peut-être pas de voiture, pourquoi passer 27 minutes à aller dans une zone commerciale pour aller essayer un jean qui ne va peut-être pas lui aller, alors qu'en fait vous pouvez faire tout ça plus rapidement pour moins cher en ligne. Donc effectivement, ce moyen de gamme-là s'est effondré parce que il était ringardisé, mais dans le sens où il n'était plus en phase avec l'air du temps, avec l'époque et avec les usages.
C'est vrai qu'Olivia Détroyat, maintenant, les jeunes achètent sur des réseaux sociaux, sur TikTok, sur des plateformes qu'on ne connaît pas, d'ailleurs, parce que c'est des plateformes qui n'ont pas de magasin physique.
Qu'on ne connaît pas, on les connaît quand même si on est...
Temu, là, qui vend des baskets à 35 centimes.
Oui, on a beaucoup parlé de Chine aussi. On a aussi les plateformes des réseaux sociaux, par exemple TikTok, qui fait du live streaming et de la vente
en ligne. Tout ça, c'est chinois, tout ce qu'on vient de citer.
C'est chinois et ça marche très bien. Et là aussi, c'est un nouveau changement de consommation qu'on a peut-être moins vu venir, pardon. Par exemple, je regardais en Grande-Bretagne, il y a 6% des cosmétiques qui se vendent via TikTok.
Ah, on achète maintenant des crèmes pour la
TikTok.
Peau.
En Chine, c'est encore plus avancé parce qu'ils ils sont passés, eux, directement sur l'ère du digital avant même de passer par l'ère du magasin. Donc on voit que c'est des nouvelles façons de consommer avec des générations digitales natives qui vont directement sur, sur ces plateformes-là qui ont, d'un point de vue social, quelques interrogations ou quelques doutes sur le modèle, enfin, le modèle social sur lequel ils s'appuient. Je pense notamment à Timou dont vous avez parlé.
Quand on vend des baskets à 35 centimes, voilà. On se doute.
Ou même Wish, dont on a beaucoup parlé, qui avait été carrément interdit en France pendant un an avant de pouvoir réapparaître après s'être mis dans les clous sociaux.
Sans compter que ça change aussi la façon dont on fait de la publicité, puisque aujourd'hui, vous voyez que c'est complètement ringard, le spot pub, en fait, et que pour s'adresser à ces consommateurs, ces jeunes consommateurs, eh bien, c'est les influenceurs qui cartonnent.
C'est la fin de la pub à la télé, quoi.
Ah bah complètement. Enfin moi je serais annonceur, je m'inquiéterais quand même. Et je pense que c'est un véritable virage. Et d'ailleurs c'est pour ça que Bercy, en tout cas le ministère de l'économie, a tenté de réguler cette année après des dispositions pour les influenceurs, parce que outre l'aspect commercial, ça pose aussi de vrais problèmes de santé publique, parce que vous vantez tout et n'importe quoi, il n'y a aucune régulation.
Thomas Porcher, c'est vrai qu'on disait tout à l'heure que l'alimentation avait descendu en gamme, qu'on faisait moins de bio et plus de malbouffe. Est-ce qu'il n'y a pas le même phénomène à l'œuvre dans le textile, avec alors, parce qu'on peut, quelques chiffres. Chez Bershka, donc c'est une enseigne en plus qui a un peu plus pignon sur rue, 85% des vêtements viennent de Chine ou du Bangladesh.
Mais bien sûr.
Et il y a eu cette étude sur la fast fashion, donc tous ces vêtements qu'on achète sur Internet, 30% sont vendus au prix neuf, 30% sont vendus au prix discount et 30% sont jetés. Donc ça interroge quand même, non ?
Mais bien sûr que ça interroge. Je pense que les consommateurs sont pas bêtes. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont tombés très facilement dans les bras de Chine ou d'autres. C'est que nous savons tous que tout est produit au Bangladesh, tout est produit en Chine. Nous savons tous que la qualité des biens produits n'ont plus rien à voir avec les entreprises des années 80. Il y a une uniformisation des produits qui sont faits. Vous trouvez les mêmes partout. La durée de vie est très faible. Donc, je suis pas sûr que les usines des producteurs qu'on a cités soient meilleures que celles que les normes sociales soient meilleures que celles de Chine. D'ailleurs, c'est fabriqué souvent dans les mêmes endroits, et que les normes environnementales soient aussi meilleures. Souvent, ces entreprises-là se sont défaussées sur leurs filiales en disant que ça les concernait pas, que ça concernait souvent les filiales. Et puis après, c'est vrai qu'elles n'ont pas vu venir tous les changements structurels. La seconde main. Pourquoi vous allez acheter un produit d'une gamme moyenne vous pouvez trouver un produit d'une gamme supérieure au même prix que la gamme moyenne, mais sur Vinted. C'est vrai. Pourquoi ? Pourquoi elles n'ont pas vu le développement des réseaux sociaux, de l'e-commerce ? Parce qu'elles ont investi que très tardivement tout ça, ces entreprises. Alors que d'autres voyaient quand même quelque chose d'innovant. Et donc ça pose la question quand même des dirigeants. C'est-à-dire, est-ce que les dirigeants connaissaient le secteur ? Ou est-ce qu'ils ont juste fait des rachats pour faire des rachats ? Et après, voilà, parce que quand même, quand on voit les montages financiers de certaines de ces boîtes-là, c'est des holdings sur des holdings sur des holdings sur des holdings. On se demande si, je veux dire, à un moment, quand vous achetez une entreprise, normalement, à la base, vous devez connaître le secteur dans lequel vous êtes et y voir les transformations. Si vous ne voyez rien venir, c'est que vous l'avez acheté pour d'autres raisons.
Alors, Jean-Laurent Casselli, quel est l'avenir de nos commerçants, de ces petits locaux qui animaient les rues commerçantes de notre enfance? Est-ce que tous ces petits commerces sont voués à disparaître et on va tous devenir des TikTokers en achetant nos crèmes pour la peau sur les réseaux sociaux?
Alors, heureusement que non, c'est une excellente question. Je pense que, paradoxalement, avec cet effondrement des enseignes franchisées, les difficultés qui pèsent sur la grande distribution, il y a aussi un retour paradoxal aux petits commerçants. On le voit d'ailleurs à l'approche des fêtes, beaucoup de gens éprouvent une certaine fatigue numérique à l'idée de commander en ligne, de se retrouver coincé parce que le livreur n'arrive pas, de devoir renvoyer le produit parce qu'il ne convient pas. Le fait d'avoir...
De se faire arnaquer parce qu'on était sur un site pirate et qu'on s'en était pas rendu compte.
Avec des risques d'arnaque. Donc c'est vrai que la réassurance du petit commerçant... Clairement, le petit commerçant, il ne regagnera pas la bataille du prix. C'est impossible. Par contre, ce qu'ils peuvent... Ni celle du stock et ni celle de la rapidité. Donc qu'est-ce qu'il lui reste ? Il lui reste son sourire, évidemment, mais il lui reste aussi sa capacité de curation, de sélection. Et je pense qu'avoir une offre bien resserrée, ce que n'avaient pas toutes ces enseignes qui ont disparu, une offre ciblée, bien resserrée, un rôle de conseil, ça peut jouer et ça parle à beaucoup de consommateurs qui sont nostalgiques de ce lien social. Parce que le commerce, c'est quand même un lien social avant tout.
Et oui, dans ces grands groupes, c'est vrai que nous n'avons plus aucun interlocuteur. Et alors qu'avec le petit commerce, il y a un interlocuteur.
Ah oui, je pense que ça change tout. Avant d'avoir M. Shein au téléphone...
Voilà, exactement.
Fanny Guinochet, Henri qui pose la question, comment les maires s'y prennent-ils pour faire vivre leur centre-ville quand les commerces disparaissent les uns après les autres.
Ben, c'est compliqué. Et d'ailleurs, l'État a essayé de donner un coup de main, je pense, à l'action de... qui a été menée par Olivia Grégoire, la ministre des TPE, des PME et du commerce, qui a essayé de donner de l'argent, des enveloppes pour aider les commerces, enfin, les centres-villes, en tout cas, à se maintenir. Souvent, les maires, ils mettent à disposition des locaux, ils essayent d'attirer le chaland, de faciliter l'entrepreneur qui a envie d'ouvrir sa boutique. Mais là aussi, c'est compliqué, parce que quand vous regardez un certain nombre de centres-villes, ou en tout cas, vous avez des opticiens qui ont supplanté, ou des appareils, des magasins d'appareils auditifs qui ont quand même supplanté le petit commerçant voilà. Après, il y a quand même, on reste gaulois, donc le phénomène du marché reste un endroit de retrouvailles où les gens aiment bien aller, où on a le sentiment de faire
un plaisir, vivre une expérience.
Voilà, où on a une expérience, ce que disent les marketeurs, en tout cas les gens qui font du commerce, une expérience client qui est agréable, où effectivement vous êtes reconnu, vous reconnaissez votre marchand, il vous fait un prix, il vous guide. Ça reste un lieu aussi où vous croisez vos voisins. Tous ces lieux de convivialité, ils ne vont pas disparaître. Donc, mais c'est vrai que pour les petits commerçants, on voit qu'il y a un certain nombre de petits commerçants qui ont du mal à tenir les
deux. On comprend qu'ils aient mal pris la fameuse publicité qu'a fait au moment du Black Friday le gouvernement et l'ADEME sur le dévendeur. Hein. Donc c'est quelqu'un qui vient dans une boutique et qui vous dit « mais non, n'achetez pas alors je crois qu'on l'a, non ? On l'a, la publicité des vendeurs de l'État ? On l'a, bon, elle va arriver.
Je suis dévendeur et je vous conseille le moins 100%.
Il y a un moins 100% ?
Bah oui, le vôtre.
Il est très bien. Je peux ?
N'hésitez pas, hein, si vous avez besoin que je vous déconseille d'autres achats, ça soulagera les ressources de la planète.
Et vos placards ?
Parce que les dévendeurs n'existent pas, posons-nous les bonnes questions avant d'acheter. Rendez-vous sur épargnonsnoresources.gouv.fr.
Bon, elle a pas du tout fait rire les petits commerces, les petits commerçants qui sont en train de fermer.
Mais je les comprends. Parce qu'on est dans une période où déjà la consommation subit des arbitrages. On l'a dit, il y a une baisse de la consommation qui est due principalement à l'inflation. Donc pourquoi vous en rajoutez avec de la moralité en réalité ? Parce que vous avez beaucoup de gens qui attendaient peut-être le Black Friday pour pouvoir faire un achat. Et quand on voit ça, bon, ça rajoute, moi je trouve, de la morale dans un contexte qui est déjà morose.
D'ailleurs, Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique, l'a reconnu, on aurait dû cibler davantage les plateformes dont on a parlé,
bien sûr.
Shein et Temu, qui vous livrent depuis Shenzhen, plutôt que le pauvre commerçant qui essaye de survivre dans la rue commerçante. Quoi.
Oui, pour te parler de consommation responsable, plutôt que de déconsommation qui effectivement porte préjudice à un secteur qui va déjà pas très bien et qui souffre beaucoup. Et ça a manqué effectivement dans l'action
ça
du gouvernement.
À quoi ces prix ? Parce que c'est vrai que si on va sur la plateforme Temu, on a des baskets à 35 centimes à partir de... Hein.
À partir de 35 centimes, on a des raquettes de tennis à 5 euros.
Mais comment
on a du mal à comprendre la construction des prix. On comprend qu'effectivement, de toute façon, on ne s'y retrouvera pas, vu les prix, on ne s'y retrouvera pas ni sur la qualité, ni sur les délais de livraison. Voilà, mais ça parle à une catégorie de population, des jeunes
Et des pays pauvres.
Et des pays pauvres, voilà.
On n'a plus de notion des prix, de toute façon, maintenant. Il n'y a plus d'étiquettes. C'est promotion à tous les étages. C'est la mode, c'est Black Friday tous les jours.
Il y a une sorte de lissage en fait sur l'année des opérations promotionnelles. Et c'est vrai que les plaintes des commerçants qu'on a entendues dans les médias à l'approche de Noël sont compréhensibles, mais il faut bien voir qu'on est arrivé après un Black Friday qui a eu lieu fin novembre, qui est annoncé à grand renfort de publicité. Voilà, si vous avez cassé votre tirelire le 19 novembre, le 18 décembre, vous n'êtes pas prêt pour refaire des cadeaux de Noël. Peut-être sur l'ADEME, je voulais revenir sur cette publicité, parce que ce bad buzz a occulté quand même l'étude qu'avait menée l'ADEME sur justement la sobriété et les modes de vie, qui était assez intéressante, et dans laquelle il y avait des conclusions assez incroyables, puisque à peu près 80% des Français considéraient qu'on consommait trop, que les Français étaient trop consuméristes, mais ils étaient aussi trois quarts à considérer qu'eux-mêmes consommaient moins que la moyenne. Donc finalement, ils rejetaient la balle soit à leurs voisins, soit à l'État, soit aux entreprises.
Alors, c'est l'une des conséquences de l'inflation galopante de ces derniers mois, les vols à l'étalage qui augmentent dans les supermarchés. Bien souvent, ce sont les catégories de consommateurs les plus fragiles qui finissent par passer à l'acte, les retraités ou les étudiants. Juliette Coulet et Marion de Vauchel ont recueilli le témoignage d'un jeune homme qui nous raconte comment il a franchi le pas.
Dans les supermarchés,
des clients de plus en plus surveillés. Caméras dans les rayons, anti-vol sur les produits, contrôles aléatoires à la sortie du magasin. C'est que les vols se sont multipliés l'année dernière, plus 14% d'après le ministère de l'Intérieur. Une hausse parallèle à l'envolée des prix, 5% d'inflation en 2022.
Et c'est une réalité. Donc en fait, la nouveauté, c'est qu'on antivole la viande, on antivole le poisson frais emballé, et ça, c'est nouveau. On ne le faisait pas il y a 2-3 ans, mais on constate effectivement des vols qui, lorsqu'ils sont réalisés, sont sur des valeurs importantes, ça peut être 8-9 euros. Donc on n'a pas le choix, on s'équipe, et on a revu aussi les plannings des vigiles pour avoir des présences plus importantes.
Certains consommateurs reconnaissent une pratique de plus en plus fréquente autour d'eux.
Mais si c'est voler, par exemple, des tablettes, des smartphones, des choses comme ça, non. Voler à manger une pomme, une banane, bon, je peux le comprendre.
C'est qu'ils sont obligés, oui. Enfin, par nécessité. Enfin, je comprends que quelqu'un qui est fin vole.
Parmi les nouveaux profils de voleurs poussés par l'inflation, les retraités et les étudiants. En dernière année d'études, ce jeune homme de 23 ans a commencé à voler pour se nourrir correctement.
Je suis rentré, j'ai pris des articles. J'avais comme si de rien n'était, comme si j'étais perdu dans mes pensées un peu oisifs. Et je sortais. Et ma technique, c'était si on me contrôle, je prétendrais que j'ai complètement oublié, j'étais dans mes pensées, que voilà, je partais. Souvent, on ne me contrôlait pas parce que c'était tellement naturel que les caissières ou caissiers pensaient que j'avais payé.
En plusieurs mois, il aurait dérobé plus de 600 euros de courses via les caisses libre-service. Mais il arrête le jour où il se fait prendre sur le fait.
Il n'y avait pas de volonté anti-système, dans le sens où c'était vraiment pour arrondir les fins de mois en quelque sorte. Mais mes cibles, c'était des grandes marques, le grand capital en quelque sorte. Dans le sens où je volais jamais un petit commerçant, je volais toujours des grandes surfaces, sachant qu'ils faisaient des marges.
Quelles conséquences pour les grandes enseignes? Entre la casse, les produits périmés, les erreurs d'étiquette et le vol, les distributeurs auraient un manque à gagner de plus de 7 milliards d'euros par an, ce qui pourrait avoir une incidence à long terme.
Aujourd'hui, les marges sont de plus en plus faibles et donc l'augmentation des vols peut vraiment mettre en péril la rentabilité du magasin. Et quand on va commencer à atteindre des chiffres de type de 2-3% du chiffre d'affaires, ça pose question. Et puis il y a aussi le risque de rentrer dans une spirale infernale avec une augmentation constante de ces vols, puisque si les clients n'observent pas qu'il y a des mesures qui sont prises, eh bien ils pourront être tentés de le refaire et donc rentrer dans une spirale très négatif pour le magasin.
Jusqu'à présent, peu de commerçants déposaient plainte pour vol à l'étalage. La peine de 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende était rarement appliquée. Mais depuis cet été, le ministère de la Justice a instauré une amende pour les voleurs pris en flagrant délit. 300 euros, payables immédiatement.
Alors Fanny Guinochet, c'est vrai qu'on a vu dans le reportage certains voleurs qui transforment leur acte en acte militant face à un grand capital qui abuserait sur les prix pour garantir
après,
le dividende.
Après, c'est difficile de faire la part des choses. Je crois qu'il n'y a pas de chiffres qui disent les motivations du vol. On voit les 14% supplémentaires de vol à l'étalage, mais derrière, c'est difficile de savoir si c'est parce que c'est un acte militant ou si c'est parce que vraiment vous n'arrivez plus à remplir votre frigo.
Est-ce que tout le discours de Michel-Édouard Leclerc, les industriels abusent, ils privilégient leur marge
Écoutez, c'est très compliqué. On n'arrive pas à savoir. Alors, Bercy a demandé, le ministère de l'économie a demandé un rapport pour voir à qui profite le crime, hein, si c'est le cas de le dire, que ce soit les industriels ou les distributeurs. Pour l'instant, on n'a pas vraiment la réponse. Les distributeurs vous expliquent qu'ils font très peu de marge, qu'en plus, voilà. Et les industriels vous expliquent qu'eux aussi ont des coûts qui ont augmenté, de l'énergie, des matières premières, ce qui est vrai. Hein, facialement, le cours du blé est certes retombé, mais à un moment, il a beaucoup augmenté. Le prix de... Donc, après, il y a forcément... On était dans une économie où il y avait des marges. Voilà, aujourd'hui, chacun rogne et certainement, au passage, en plus, ces négociations, c'est le gros problème, c'est que ces négociations, alors le ministère de l'économie fait pression, avance ces négociations, mais le problème, c'est qu'on ne sait pas ce qui s'y passe vraiment. Il n'y a pas de transparence.
Entre distributeurs et producteurs.
Voilà, et les gens qui vous racontent ça, ils vous racontent ça comme si c'était un jeu de poker où ils n'osent pas parler. ou tout. Et vous ne savez pas vraiment exactement ce qui s'y passe. Donc, qu'il y a forcément des enseignes qui continuent à se faire des marges, probablement supérieures, qui profitent de la crise. Il y a toujours eu des profiteurs de crise.
Est-ce que Thomas Porcher, on a l'impression que chacun veut préserver sa marge et que le seul qui, lui, n'est pas en position de préserver son portefeuille, c'est le consommateur?
Oui, en fait, il faut quand même regarder la structure du marché. Et la structure du marché, elle est très oligopolistique. Et c'est ça qui pose un problème. Vous regardez les distributeurs, vous prenez 6 distributeurs, ils ont 90% du marché. 4 distributeurs, 70% du marché. Donc là, on est vraiment typiquement dans la structure de marché où il peut y avoir des ententes, même pas des ententes dites comme ça, mais voilà, pas d'intérêt à jouer vraiment la concurrence. Mais oui, bien sûr, bien sûr. Et pour les producteurs, c'est pareil. Les grands producteurs, les grandes marques, même si vous avez plusieurs types de produits, elles sont détenues par des grandes marques. Une dizaine de grandes marques ont quasiment l'ensemble de la consommation. Donc quand vous êtes sur un marché oligopolistique, avec des profits records, même ceux qui ont baissé leur volume finalement, ils ont profité de la hausse des prix pour compenser, ils ont fait des bénéfices records. Les grandes marques, les distributeurs, bah là, vous êtes quand même, vous pouvez vous interroger sur cette question de la marge nette. Et ça, personne ne la connaît. De l'amont à l'aval, personne ne connaît cette marge nette. On n'a jamais réussi à avoir cette transparence. Peut-être s'il y avait eu cette transparence, il n'y aurait pas eu ce type d'acte-là.
Peugeot Citroën le reconnaît. Hein. On vend moins, mais on vend avec plus de marge. Et à la fin, ça fait plus de bénéfices.
Mais bien sûr, mais Total, c'était pareil. Hein. Ils ont profité de la hausse des prix massivement.
Olivia Letroya, qu'est-ce qui traduit quand même ce reportage pour que certains en viennent à voler ce qui ne se justifie pas? Ça traduit quoi?
Ça traduit une paupérisation de
qui se manifeste aussi dans les
qui se manifeste dans dans les achats du quotidien. On a du mal à suivre, donc on franchit le pas. On a vu aussi effectivement toutes les associations d'aide alimentaire qui ont
débordées,
les Restos du Cœur qui ont augmenté de 20%, dont les besoins, les demandes d'aide ont augmenté de 20%. C'est pareil au Secours Populaire, à la Croix-Rouge Française. Donc on sent que voilà, il y a eu un basculement d'une partie de la population vers la paupérisation, et c'est pas forcément ça concerne même maintenant des cadres, hein. Je pense que le patron de la Croix-Rouge qui expliquait que maintenant il recevait aussi des cadres parfois dans ses services. Donc
le travail ne permet plus de vivre dignement, hein. Reprends Sophie Binet, hein, qui disait ça.
Exactement. Donc ce vol à l'étalage, malheureusement, est une traduction de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui sur la paupérisation pour les besoins primaires et les besoins de base que sont l'alimentaire.
Effectivement, le travail ne paye plus comme avant. En tout cas, vous voyez apparaître des travailleurs pauvres. Il y en avait, mais la proportion de travailleurs pauvres augmente. Et c'est d'ailleurs un problème, ça va être, un sujet politique l'année prochaine. On voit bien, hein, le gouvernement essaye de prendre des mesures pour essayer de voir si certaines aides sociales ne peuvent pas être repensées pour éviter qu'un certain nombre de Français soient aidés. Mais c'est vrai que ça pose un vrai problème de perspective collective, parce que jusqu'à présent, c'était le travail, c'était ce qui permettait de s'en sortir. Aujourd'hui, le diplôme reste la meilleure parade pour
pas.
Voilà. Mais vous avez, et c'est vrai que les syndicats sont beaucoup montés au créneau, vous avez un certain nombre de grilles salariales qui se sont pas mis au pli et qui aujourd'hui sont très très basses et qui arrivent plus à suivre les niveaux d'inflation. Donc vous avez un travail, mais vous arrivez plus face à l'envolée des prix à faire face à vos besoins.
D'autant, Jean-Laurent Cassélic, vous l'avez expliqué, hein, le kit pour vivre dignement s'est étoffé. Il faut évidemment un téléphone portable, c'est ça, vivre dignement aujourd'hui. Il faut pouvoir de temps en temps offrir une semaine de vacances aux enfants. C'est ça, la vie digne, hein, comme oui, le voisin.
D'ailleurs, on a vu dans ce reportage que les vols à l'étalage ne concernent pas vraiment des pommes ou des oranges. On est plutôt sur des gens qui prennent... C'est pas pour justifier le voilà, mais
ça peut être un téléphone portable parce que ça fait partie du kit de la vie digne.
Des produits cosmétiques. Il y a beaucoup de vols de produits cosmétiques ou de parfums. Il y a aussi beaucoup de vols de bouteilles d'alcool qui sont assez chères. Donc il y a aussi, je dirais, un certain standing à maintenir, y compris, on l'a vu, chez des étudiants, chez des retraités, chez peut-être des employés ou des cadres moyens. Donc je pense que toute cette société de consommation génère aussi un certain nombre de frustrations qui peuvent, pas forcément justifier, mais expliquer aussi le poids de ces vols de produits qui ne sont pas forcément des produits de première nécessité. Voilà.
Vous venez d'écouter C'est dans l'air, c'est un podcast France Télévisions. N'hésitez pas à vous abonner. C'est dans l'air est disponible gratuitement sur toutes les plateformes audio, en vidéo, disponible sur francetv.fr. À très bientôt.